Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Tu cherches hein?
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres? Non.
Que diable est différent dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des poils autres promenades.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois d'octobre de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui continue à prendre son temps. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Cette émission mensuelle vous est proposée par Principe Actif et le Tangramme. On aura l'occasion de vous en reparler, bien entendu. Vous avez remarqué, la coproduction a changé récemment. Nous avons justement toute une émission pour en parler. Au sommaire de cette émission, nous parlerons justement Tangramme avec notre invité.
Oui, avec Christian Mousseau-Fernandez qui est présent en direct avec nous sur cette émission d'aujourd'hui. Bonjour Christian.
Bonjour.
Et vous êtes le directeur de cette nouvelle structure établissement public de coopération culturelle qui vient de voir le jour à Évreux et à alentour, et vous nous parlerez bien de ce projet.
Avec plaisir.
Nous parlerons également jazz à travers notre focus.
Oui, une grande et belle voix du jazz qui sera présente à Évreux la semaine prochaine, dès jeudi 13 octobre. Nous prendrons le temps de vous présenter Cécile McLaurin-Salvant.
Nous tenterons également de proposer un agenda de notre sélection de sorties culturelles du mois à venir.
Oui, pour attiser votre curiosité et vous donner des envies de sorties et de rencontres artistiques. Voilà, c'est toujours un agenda que nous avons choisi délibérément.
Exactement, complètement objectif.
Toujours.
Carrément pas.
Carrément pas.
Nous terminerons l'émission avec un extrait de film et on va dans les cartons cette année.
Ce mois-ci. On va vous allez entendre vraiment l'univers sonore et musical de Kurosawa. Mais comme vous peut-être ne l'avez jamais entendu, Kurosawa, vous avez peut-être Ran en tête ou les grandes épopées. Là, nous irons dans le polar japonais des années 50 avec un extrait d'un film dont nous vous parlerons en fin d'émission.
Mais tout de suite, sans plus attendre, il est l'heure de retrouver notre traditionnelle prise de son.
Vous voyez aussi, là, tout ça, c'est des micros. Comme ça, nous, ça nous permet d'avoir le son de la batterie dans les enceintes. Et quand il y a du public, de mettre le son aussi dans les enceintes. Voilà, ça, c'est une batterie électronique.
Exactement.
Donc cheveux, il joue de la basse. La basse, c'est ça.
Ouais, c'est pas quoi.
Voilà, c'est un instrument, c'est une basse. Et la guitare. La basse, il n'y a que 4 cordes. Ça fait un son, comme son nom l'indique, de basse. Ça fait un son plutôt. Alors la guitare, c'est un son. Et en général, la basse et la batterie, c'est assez important.
Et après moi quand je chante, c'est comme ça. Comme je vous ai fait tout à l'heure. Je vais dire n'importe quoi.
J'aime quand je suis loin, quand mes yeux s'ennuient. J'aime quand tes mains, mais je préfère mon lit.
Ouais. voyez, c'est comme ça qu'on écrit des chansons en faisant n'importe quoi. Et vous, vous allez un peu faire de la même manière, c'est-à-dire que bah, vous allez trouver des mots, trouver une histoire, par rapport peut-être à l'histoire du dernier jour. Après, on va aller à côté, je vais vous raconter un peu l'histoire du dernier jour et comment on va travailler. Mais on va faire comme ça. On peut peut-être vous montrer un petit exemple, peut-être avec la basse.
Voilà, une captation sonore, une tranche de vie collectée par Cécile. Qu'avons-nous entendu, Cécile ?
Alors, on était au cadran, sur la grande scène du cadran à Évreux, et on était avec Monsieur Lune et son équipe. Monsieur Lune, c'est Nicolas. Il est auteur, compositeur, interprète. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, donc sous son nom de scène, qui est Monsieur Lune, puisqu'il avait créé, il y a quelques années, son premier spectacle jeune public qui s'appelle L'incroyable histoire de Gaston et Lucie. Il avait à l'époque travaillé avec l'abordage et il avait également rencontré des élèves des écoles du Neubourg. Là, cette année, il revient, il travaille sur son prochain projet qui s'appelle Le Dernier Jour. Le Dernier Jour, c'est l'histoire d'Émile, un petit garçon qui est fou amoureux de Louise. Et c'est le dernier jour d'école, donc en fait, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, il doit lui déclarer sa flamme. Forcément, cette journée va être semée d'embûches et il va pas pouvoir simplement lui déclarer sa flamme. Voilà pour l'histoire du petit spectacle. Donc là, c'était un temps de répétition puisqu'ils étaient en résidence au cadran à Évreux tout au long de la semaine. Et durant cette résidence, il y a des élèves de l'école Romain Rolland à Évreux qui sont venus tous les jours. Il y avait au moins deux classes qui venaient pendant une petite heure partager un temps avec Monsieur Lune et son équipe. Donc comme on l'a entendu, c'était un échange où il leur présente ses musiciens, les instruments. Et puis... pourquoi ils viennent le rencontrer? Tout simplement parce que ses élèves vont travailler avec lui tout au long de l'année dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les résidences d'action culturelle en milieu scolaire et qui est mis en place en partenariat en fait avec le Tangram et la DSDEN. Monsieur Lune reviendra pendant 3 semaines dans les établissements travailler sur l'écriture de textes, de chansons et sur le chant avec les enfants de l'école Romain Rolland.
Le SDEM, c'est quoi, Cécile ?
La DSDEN, c'est pas beau, hein, voilà, anciennement l'inspection académique. Direction des services de l'éducation nationale, si je vous dis pas de bêtises. Direction des services départementaux de l'éducation nationale, voilà.
Ça ne rigole pas.
Non, hein, c'est sérieux tout ça.
Très bien. Eh bien, on pourrait croire que c'est facile d'écrire une chanson en écoutant ce court extrait musical où il suffirait de faire n'importe quoi et une chanson va apparaître. Je ne suis pas certain que ça se passe aussi simplement. Je vous propose une première pause musicale, extrait de l'album à venir de Wax Taylor, qui sortira incessamment sous peu, appelé « By Any Beats Necessary ».
Magnifique.
On n'a rien dit.
C'est toi qui
nous tend les perches, JC, là.
On écoute Wax Taylor.
Some of you already have a general idea of the plan of this operation. Before we give you the full picture, I want to point out that everyone turned up.
You ready? It's heavy, baby.
Anyone taking offense? I don't care. I'm blaming the pen. But alas, give me the mic and I'm showing up. What to do? Look at me when I'm on stage. I'm a paraplegic. I'm breaking a leg and they're breaking a sweat. I'm heating them up. Going to trouble. I'm cleaning them up. Easy enough. This is not challenging. This is not tough. I don't have famous friends. I just steal their fans. Like ask if I did it. Deny it.
Back on wax. Here comes the sound. Check my pedigree. Back on wax.
Find out in need of it.
Come follow me on this journey.
Back on wax.
Don't stop.
Check it.
Back on wax.
Let me break it down for you again.
All I want to do is bring truth to all my brothers and to all my sisters.
You're making some very serious charges.
Yeah, sucker, you better not violate.
My mind speed rhyme be brutal. My bitch stick yours thin like Chinese noodles. I killed Nazi followers and poppycockers. Robbing coppers, niggas getting killed by Tommy knockers. I was the slave rebelling the master. Killing cherry picking niggas sticking up for crackers. I usually run through vagina. The only black nigga doing kung fu in China. Drunken monkey Mike style, bloody punching fights. eyes mild, arrested for fucking up an ugly duckling white child. My core scene is evil and wicked.
What else?
I force feed a vegan a chicken. The blacker the berry, the illter the juices. Tuck the guy that you ferries, I kill you with toothpicks. One, rapping it rudely after. Killing bitch niggas and African booty scratchers.
Back on wax, go wax.
The saga continues.
Check my pedigree.
Back on wax, go wax.
And never will it ever stop. Stop.
Back on wax.
The back in the place.
Don't sell it, you don't smoke, you feel.
Back on wax, go wax. I'll take your note.
Go on my path.
It's the fast rap back, smack the block, hot bomb drop on the ground, non-pop lock, comp stock like a mice, it's some knife slice in the prize fight, in the mighty Mike Tyson, the rhyme tight, and I'm David Hasselhoff, Michael Knight, night riding, I'm on my door, James Simpson, winning the Heisman, coal mine, bloody Valentine, pick axe, spit abs, kick facts, ABC, Force, big tracks, are not a millennial, wrecking a legend on record since the beginning, I've been in a position to bring in the winning, living and sinning, the pick of the swinging, Muhammad Ali, I'm the king of the ring, and I'm being the goat, and I'm doing my thing, and rest in peace to the great war, but don't float, sting, and I'm the ill of vanilla. Killer gorilla monsoon, Castle Wolfenstein, bitch, Achtung, crew, blue sniffing, where the true soup kitchen be from the tape era, Ron G, crew, kick a pre, go.
Back on wax, go on wax.
Somebody should have warned you.
I doubt that you're ready.
Back on wax, go on wax.
I told you,
don't do it, buddy, don't do it.
Make room for daddy.
Back on wax,
swing the Excalibur.
The Excalibur.
From the south to the west to the east.
Back on wax,
final, final, baby.
I can never look forward to an early retirement.
You and your friends will return to the schoolroom.
Voilà, le retour de Wax Taylor après avoir proposé un projet avec des orchestres symphoniques. Le voici avec ce projet, By Any Beats Necessary. Et le morceau que nous venons d'écouter, c'est Back on Wax. Alors forcément, c'est un album avec beaucoup de featuring, comme on dit, beaucoup d'invités sur ces titres. Je vais pas vous en faire la liste parce que l'album en est plein, bien entendu. C'est un album à surveiller. Ça sort la moitié du mois, mi-mois, quelque chose comme ça. C'est à venir, ça va arriver très très vite. Et nous le disions au sommaire, nous allions parler Tangram avec notre invité Christian Mousseau-Fernandez. Rebonjour pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route.
En vrai, grand chien.
Je voudrais juste qu'on repose le cadre un petit peu. Tout à l'heure, Nathalie a évoqué rapidement le PCC. Qu'est-ce qu'un EPCC? Qu'est-ce que le Tangram? Quelle est sa mission en quelques mots, si vous le voulez bien, Christian? Si on peut le faire en quelques mots.
Oui, on va tenter. Le PCC, d'abord, c'est un établissement public de coopération culturelle. Hein. C'est un établissement qui est assez récent dans sa forme juridique, puisque ça a été créé pour permettre à des structures culturelles, en particulier qui étaient plutôt sous forme associative, sur lesquelles il y avait des petits problèmes de fonctionnement, on va dire notamment de gestion de fêtes, etc. La structure juridique a été inventée pour clarifier d'un point de vue purement comptable, on va dire, les choses. Donc, dans un établissement public, il y a une comptabilité publique. Voilà. Alors, pour ce qui
est du coup, c'est un statut qui a permis de faciliter pour les établissements culturels. J'imagine que c'est très spécifique et que ça s'adresse uniquement, quand on dit EPCC culturel, il y a un DC, c'est culturel, donc ça s'adresse que aux équipements culturels, à la gestion.
Culturel et touristique aussi. D'accord. Il y a pas mal d'établissements qui ont des missions, on va dire, touristico-culturelles. La particularité des établissements publics de coopération culturelle, c'est qu'ils regroupent systématiquement plusieurs partenaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer un établissement public uniquement avec, par exemple, la ville d'Évreux qui voudrait, elle, toute seule, monter un établissement public. Ça n'est pas possible.
Il n'y a pas de coopération, de toute façon.
Coopérer avec elle-même, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant.
Donc sur Évreux, clairement, cette coopération, c'était les structures scène nationale, abordage et cadran, ou il y en a d'autres qui rejoignent encore cette EPCC, ou il y a un tronc commun, un tronc de base?
Alors, faut distinguer la question des activités et les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui vont constituer l'établissement public.
Qui vont être en gestion?
Oui, absolument. Alors, ces membres fondateurs, c'est la ville d'Évreux, l'agglomération d'Évreux, la ville de Louviers, le département de l'Eure, la région qui a rejoint quelques mois après la création, mais qui aujourd'hui est vraiment dans le membre,
Et ça, c'est sur la partie plus administrative. Enfin, quoique, il y avait de la programmation des services de la ville sur la partie culturelle. Mais sinon, c'est une partie qui est administrative et financeur, non ?
Oui. Alors là, ce dont je parle, c'est ceux qui vont apporter ce qu'on appelle des contributions financières. Et c'est parce qu'il y a des contributions financières que l'établissement public de coopération culturelle, il existe. Hein, d'un point de vue purement juridique, on va dire. Sans contribution, ça n'a pas trop d'intérêt, de toute façon. L'intérêt de l'établissement public, et le dernier, je quand même tiens à citer le dernier, ce qui est d'importance, c'est l'État, quand même, hein, qui est fortement impliqué dans l'établissement public. Et c'est grâce à cette coopération à caractère financière, certes, mais pas que est défini un projet commun qui va faire l'objet même de l'établissement public de coopération culturelle. C'est exactement ce qui s'est passé ici à Évreux, où ces différents partenaires que je viens de citer se sont mis autour d'une table en disant, mais voilà, nous on intervient à différents degrés dans des structures culturelles aujourd'hui, que sont la scène nationale, l'abordage, et un peu moins, mais quand même, côté ville, en tout cas fortement, autour du cadran, donc de la société d'économie mixte qui existait. Est-ce qu'on n'a pas là moyen de se rassembler et de rassembler nos moyens, justement, peut-être faire des économies d'échelle, et mais autour d'un projet unique qui va rassembler les activités qui étaient portées par la scène nationale, alors par l'abordage sur son volet, on va dire, musique actuelle à l'année hors festival, et sur toutes les activités à caractère économique, congrès, séminaires et salons qui étaient portés au cadran. Voilà. Et c'est à partir de là que l'établissement public, enfin que les membres ont discuté. Avant que ça se crée, justement, l'intérêt, c'est que la coopération, elle démarre bien avant. Et ils se sont mis d'accord, ça prend un certain temps, et ensuite, c'est scellé dans le marbre, entre guillemets, à travers les statuts qui font apparaître l'objet de l'établissement public et les financements qui vont avec.
À travers ce que vous êtes en train de nous expliquer, moi, ça vient percuter un petit peu, nos croyances citoyennes, ou en tout cas ce qu'on entend, ce qui se dit sur le coin d'un troquet ou autre, où on aurait cette sensation, et en tout cas ça fait partie des messages qu'on entend, que finalement cette EPCC est un rassemblement du cadran, de l'abordage et de la scène nationale. C'est bien plus large que ça, dans ce que vous nous expliquez. Ce sont de nouveaux partenaires également qui intègrent et qui font vivre un projet. Ce qui m'amène à poser la question de, on voit bien le modèle économique, les statuts juridiques, est-ce que du coup ça implique qu'il y ait un projet à échelle de la structure ? Enfin, j'imagine...
C'est la condition sine qua non pour que ça existe. Je m'explique. Le recrutement du directeur de l'établissement public de coopération culturelle se fait
en l'occurrence
au projet. C'est-à-dire que sur la base d'un existant, évidemment, hein, on ne part jamais de rien, il est demandé aux candidats de penser, d'imaginer, d'inventer un projet qui prenne en compte ce qui a fondé finalement déjà la petite histoire de l'établissement public, qui était relativement courte, puisque évidemment c'est ce fameux temps de discussion qu'il y a eu entre les partenaires, mais qui a fondé aussi l'histoire du territoire, et en particulier de la ville d'Évreux et de Louviers. Et c'est sur cette base-là que chaque candidat a construit un projet, mais il y a aujourd'hui un seul projet pour l'ensemble de l'établissement. Donc le Tangram, aujourd'hui, c'est un projet artistique et culturel et économique au service d'un territoire.
Dans ce que j'entends, c'est donc le projet des candidats. J'imagine que lors du recrutement, chaque candidat avait un projet sûrement différent, hein, du coup, vu que c'était ses projets propres. Quelles sont les grandes lignes, du coup, du projet que vous avez proposé ? Je veux tout savoir, hein. Vous allez voir, on a une heure ensemble, mais je veux tout savoir. Non, mais quelles sont les grandes lignes, les particularités, du coup, du projet que vous avez proposé, Christian ?
Alors, avant de parler de particularités, reparlons du socle, je dirais, commun qui était très probablement commun à tous les candidats. Enfin, je ne connais pas les autres projets, mais je pense. Moi, j'ai coutume de dire que le projet, il devait reposer sur trois piliers. Un pilier spectacle vivant pluridisciplinaire, qui était encadré par un cahier des charges qui est fixé par l'État à travers le label de scène nationale. Donc ça, c'est clair qu'on avait un cadre, de toute façon, à respecter. Ensuite, un deuxième pilier, qui était celui des musiques actuelles, où là, on a quelque part, là aussi, un cadre à respecter demain, puisque l'objectif qui était très clairement dit d'ailleurs dans l'annonce pour le poste de directeur, l'objectif c'est d'avoir et d'obtenir le label national de scène de musique actuelle. Et pour obtenir ce label-là, là aussi, l'État fixe un cahier des charges. Donc on avait un deuxième pilier qui, lui aussi, était déjà relativement bien encadré. Et un troisième pilier, qui, lui, a un caractère purement économique, qui était, je dirais, là où qui se basait sur l'histoire du cadran et de la société d'économie mixte dans ses activités, mais dans un champ qui, déjà, avait cette particularité d'être à cheval sur une compétence, je dirais, d'accueil de manifestations purement économiques, mais aussi un caractère culturel dans un domaine ultra complémentaire avec les deux autres structures existantes, puisqu'on était dans quelque chose qui était plus sur un public beaucoup plus large de ce qu'on appelle ici le Club Ivoire. Voilà. Donc ça, c'était la partie commune. Et à partir de là, moi, j'ai proposé de fixer des priorités à l'intérieur de ce cadre-là. Dans ces priorités-là, la première, c'est d'avoir une lisibilité artistique qui, je pense, se développera à partir de la saison prochaine autour de l'articulation entre la musique ou la création sonore, je dirais, mis devant ou confronté au plateau, c'est-à-dire à la scène, d'une part, mais aussi dans l'autre sens, comment des artistes qui ont plutôt des profils a priori on va dire plutôt théâtreux ou chorégraphes par exemple, vont se saisir de la question de la musique, du live, de la création sonore comme un objet de dramaturgie.
Et ça se fait à travers la programmation.
Oui, totalement. Et juste pour finir, parce que je sens que ça s'impatiente autour de moi.
On a tous des questions.
Donc ça, c'est le premier axe en termes de. Il y aura une dominante autour de cet axe-là, ça c'est sûr, tout en respectant la pluridisciplinarité d'un côté, évidemment, et la pluriesthétique nécessaire à travers la programmation des musiques actuelles. Le deuxième axe que moi j'ai, sur lequel je souhaite qu'on porte une attention particulière, qui est celui de la jeunesse, sur lequel on va, même si là on part vraiment pas de rien, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses déjà, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites en la matière, mais je souhaite qu'on aille plus loin et notamment qu'on réinterroge la question de la place de l'artiste dans tout ce qu'on met en place sur les démarches qu'on peut avoir en matière d'éducation artistique et culturelle par exemple, mais au-delà de ça, en termes de ce qu'on appelle de médiation aujourd'hui, de médiation sur un territoire, de médiation sur des populations, sur à des échelles très différentes. Ça, une priorité là-dessus, c'est sûr. Et la troisième, et j'en arrête là.
Moi, on va vous relancer, autant vous le dire.
Je sais. Et la troisième, elle restera, de toute façon, elle est hyper transversale, mais elle porte sur le soutien à la création. J'aurais presque dû commencer par ça. C'est-à-dire que le sens est donné par la création artistique contemporaine aujourd'hui. Et c'est par ces acteurs de la création, ces acteurs vivants, qu'on met en lien avec, alors le avec, après on peut le décliner, hein, soit c'est des habitants, soit c'est des spectateurs déjà très fidèles, soit c'est un territoire en particulier. Mais c'est bien cette mise en relation-là, mais parce qu'il y a de la création qui est possible et qui doit être une priorité absolue pour nous.
Nathalie, Cécile, là je vois que les deux souhaitent prendre la parole.
Oui, enfin, du coup, Christian Mousseau-Fernandez a beaucoup expliqué sur ce projet commun, mais l'idée c'était vraiment, pour revenir sur cet aspect technique de la création de la Fondation, que c'est le projet unique commun au départ et des administrateurs de. Fondateur, membre fondateur de l'EPCC, où il y avait déjà cadrans. Activité cadran, scène nationale et abordage, et vous êtes le projet qui va relier tout ça.
C'est évident qu'on a un enjeu derrière le projet qu'on va développer, c'est de, celui de donner du sens à cette articulation entre, on va faire le grand écart, hein, entre le salon Zénéo qui a lieu dans un mois et le concert d'Acide Arabe de l'autre côté, en passant par Dancing Grandmother par exemple. Donc c'est clair que, faut donner du sens, ça veut pas dire qu'il faut faire du lien artificiel sur des propositions qui n'ont pas besoin d'avoir du lien. Les gens, ils sont enfin, moi, je fais une confiance dans l'habitant pour faire ce lien-là. C'est lui qui, à un moment, va se dire mais le Tangram, il est en train de me proposer une offre artistique et culturelle qui est suffisamment large pour que j'y trouve ma place. Et je peux la construire, cette place-là. Et surtout, moi, ce que je défends, c'est que elle ne viendra pas du jour au lendemain. On va l'aider à construire cette capacité à prendre à un endroit, puis à un autre. Et puis aujourd'hui, moi, c'est plutôt les musiques actuelles qui m'intéressent, mais à un moment donné, parce que le Tangram va un peu me titiller et me solliciter, il va m'inviter à aller voir autre chose.
C'est le volet éducatif, finalement.
Mais totalement. Enfin, c'est la question de l'ouverture. Enfin, si on n'a pas, nous, si on est là juste pour conforter des acquis, c'est-à-dire des gens qui déjà ont une pratique culturelle qui est la leur, qui est déjà formatée et qu'on se dit on va se contenter de la, ben voilà, de la conforter, je ne suis pas sûr qu'on soit de mission de service public quand on fait ça. Et nous, notre mission, elle est bien d'élargir. Évidemment, pour les spectateurs qui sont déjà là, et de les inviter à aller voir autre chose, des gens qui n'allaient qu'à la scène nationale jusqu'à maintenant, et de leur dire à un moment donné, et ça, on va faire des propositions à la matière, notamment, moi, j'imaginais qu'on puisse proposer la saison prochaine, par exemple, des soirées qui seront sans doute en duo. Se dire à un moment donné, mais vous, public, allez. Moi, je dis toujours que être public, c'est une expérience. Faites l'expérience d'être spectateur à un endroit que vous n'imaginez pas être. C'est-à-dire, là, ok, vous êtes venu pour aller voir un spectacle de danse, par exemple. Eh bien, il y aura une deuxième partie, mais elle aura lieu dans la SMAC. Et vous allez découvrir autre chose. Voilà. Et ça, c'est notre rôle.
Mais alors, comment on les convainc, ces gens-là? Parce qu'on sait que le public, il peut parfois être très frileux à aller s'aventurer sur d'autres formes. Comment on les accompagne? Comment on leur donne cette envie-là?
Alors, première chose, je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, à des goûts. Regardez, prenez votre cas personnel. Nos goûts ne sont jamais fixes, ne sont jamais figés. Donc, on peut susciter cette curiosité-là à partir d'un choix qui vient déjà de la personne sur quelque chose qui la met en confiance. De toute façon, tout ça n'est qu'une histoire de confiance. À partir du moment où un spectateur ou un habitant se dit « ce qui m'est proposé au Tangram, j'ai confiance », alors là, c'est gagné. Alors là, on peut commencer à l'inviter à dépasser finalement un domaine qui a un peu sa sécurité affective, parce que le spectacle, c'est beaucoup sensible. Et si je veux aller avoir tel spectacle, c'est souvent, je me dis, là, je vais être en sécurité. Et le mettre en insécurité, c'est, voilà. Mais à nous de lui dire qu'on a conscience, qu'on va te faire un parcours quelque part et t'inviter à aller découvrir autre chose. Mais pour l'inviter à cela, oui, il faut de la confiance. Et ben ça passe par des rapports à l'art qui ne sont pas forcément spectaculaires. Je termine. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très très concrètement que si on veut les amener à quelque chose qui est radicalement différent, on doit proposer avoir des sollicitations qui les amènent à découvrir à un moment donné peut-être la musique en musique actuelle par exemple, pour quelqu'un qui n'allait voir que du théâtre, mais de façon peut-être moins formelle tout de suite que de lui dire « Allez, tu vas t'acheter une place et tu vas aller dans la grande salle alors que tu as des appréhensions énormes. » Et donc ça, c'est trop tôt. Mais par contre, de se dire à un moment donné « On va faire une petite forme, ça va être un showcase ou je ne sais quoi, qui va être, par exemple, je dis n'importe quoi, mais là, je réfléchis tout, mais qui va être, par exemple, dans le cadran
et, nous,
et qui va permettre déjà d'avoir une petite touche. Dire « Ah oui, tiens, les musiques actuelles, c'est peut-être pas aussi... c'est pas forcément du gros bruit qui m'assourdit et qui me fait très très peur.
Je propose, à moins que ce soit un rebond, qu'on fasse une pause musicale et nous revenions, parce que on vous avait promis, Christian Mousseau-Fernandez, un interview. En fait, ça va être un interrogatoire. On vous a un peu menti, qu'on se le dise. Je propose qu'on coupe cet échange par une pause musicale que vous avez choisie, à savoir Léo Ferré, La mémoire et la mer. En deux mots, pourquoi ce choix, Christian?
En deux mots.
Ouais, au moins six.
Première expérience, on va dire, un vrai contact avec la poésie quand j'étais enfant.
Très bien. Eh bien, on écoute Léo Ferré, La mémoire et la mer.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, la rime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser. Et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre, rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Oh, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Soir conquis avec ses pâleurs de rescousse et le squale des paradis dans le milieu mouillé de mousse. Reviens, fille verte des fjords, reviens, violon des violonades dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades. Au parfum rare des salants dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Et toi, fille verte, mon spleen, figurant sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu des granites, ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu. Cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui me... Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage le sable belle comme des moutons d'infini. La mer bergère m'appelle.
Léo Ferré, La mémoire et la mer, une sélection proposée par Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Tangram, cette nouvelle structure de coopération culturelle. Voilà pour les gens qui nous prennent en cours. Christian, on a pas mal discuté déjà sur cette première partie. Je vous cache pas qu'on a déjà débordé les temps que nous nous étions impartis, mais nous n'avons pas fait le tour du sujet, notamment sur cet équipement. Il y a une question, moi, qui me tourne, et puis plus largement, c'est une question qui ressort régulièrement dans les discussions, je dirais, qu'on a avec les copains, avec les gens qu'on croise ou autres. Cette question de ce nouvel équipement qui a fait couler beaucoup d'encre sur Évreux, cette nouvelle structure, j'imagine qu'elle a dû inspirer le nom du Tangram pour le nom de cette EPCC. Cet équipement, à quoi va-t-il servir? La population a énormément d'attentes qui ne sont pas toutes les mêmes en fonction des catégories de personnes, j'allais dire sondées, comme si on était sur une enquête, mais tout le monde n'a pas forcément les attentes. Concrètement, que va-t-il se passer dans ce nouvel équipement? A-t-il un nom autre que SMAC? Parce que tout le monde l'appelle la SMAC. Sauf que la SMAC, on l'a bien compris, c'est un label que nous n'avons pas encore obtenu sur le PCC, parce qu'il faut un certain temps pour l'obtenir, qui n'est pas gagné d'avance, qui est voilà, un label qui est visé. Mais tout le monde appelle quand même cette salle la SMAC. C'est bien qu'il y ait une certaine envie autour des musiques actuelles, ou en tout cas peut-être un fantasme autour de cette salle. Qu'en est-il précisément, Christian?
Bon, alors il y a au moins 15 questions.
On veut tout savoir. Oui, complètement, c'est notre spécialité. Hein.
Alors, pour répondre très concrètement, la salle de musique actuelle aujourd'hui n'a pas encore de nom, mais elle va en avoir un. Ça, c'est la ville d'Évreux qui est propriétaire du lieu, qui bien sûr va lui attribuer un nom. Donc elle aura un nom, ça c'est sûr, ça, pour répondre à une des questions. À quoi va-t-elle servir? Cette salle, elle a été conçue pour pouvoir accueillir des concerts. Hein. C'est une salle qui est adaptée, hein, pour l'organisation de concerts multiples et variés, avec toutes les considérations acoustiques, d'accueil du public, etc., qui vont avec. Ça, c'est sur la partie, je dirais, émergée de l'iceberg. Après, la salle, ce n'est pas qu'une seule salle. C'est un ensemble d'espaces, donc, où il y a deux salles de concert, en fait. La grande salle, hein, puis, pour accueillir un peu plus de 600 personnes debout. Mais il y a aussi un club, comme il y avait un petit peu à l'abordage, mais évidemment, dans des conditions qui ne seront plus du tout les mêmes, puisque ce club pourra accueillir jusqu'à 200 personnes à peu près, suivant les formules, hein, d'installation, si on est en installation cabaret ou en installation de face classique. Donc ça, deuxième espace, évidemment, vous comprenez bien que dans un espace comme celui-là, où ça renvoie des relations de proximité très très fortes entre le public et les artistes, on peut tout à fait imaginer qu'il n'y ait pas qu'exclusivement de la musique. Que demain on a une lecture de texte qui puisse se faire à ce moment-là. Évidemment, là, on aura un nouveau service entre guillemets rendu qu'on n'arrive pas à faire d'ailleurs par ailleurs.
Vous étiez en train de dire, excusez-moi, je vous coupe là, vous disiez, on peut imaginer que peut-être, ça veut dire que c'est clairement qu'elle est dans le projet ou c'est de la spéculation quand on dit on peut imaginer qu'elle puisse accueillir autre chose que la musique actuelle. C'est ce que vous disiez à l'instant. Je me permets de vous prendre au mot.
Je vais vous répondre de façon un peu provocatrice, mais je peux tout à fait imaginer qu'il y a un cheval au cadran.
D'accord. Pourquoi pas ?
Voilà.
Donc, c'est imaginable. D'accord.
Il n'y a pas de limite, si ce n'est des limites techniques à un moment donné ou de sécurité, si on doit en avoir. Mais quand je dis on peut imaginer que, c'est que je l'imagine bien, oui.
D'accord, ok.
Il faut qu'on soit cohérent. Le Tangram, il a été créé pour faire du lien, pour casser un petit peu des frontières artistiques qui existent ou esthétiques même. Si nous, on ne le provoque pas, dans la question des lieux, on sait très bien aussi que un lieu, c'est déjà un barrage culturel. C'est des codes, ça fait peur. Quand vous comparez, ce sera la même chose dans 2 ans avec le théâtre à l'italienne quand il va ouvrir, évidemment que là aussi, c'est bourré de codes. Et il y a plein de gens qui disent, c'est pas pour moi. Et c'est pas les mêmes qui vont dire que la SMAC n'est pas pour eux. Hein. Donc, pour terminer sur la SMAC, c'est pour ça qu'il va falloir être pluriel aussi dans ce qu'on va y faire à l'intérieur, même si la dominante, bien évidemment, elle sera musicale. Et puis, le dernier espace qui est dédié en termes d'action possible, c'est qu'il y a des studios dedans, des studios de répétition qui vont permettre notamment à des groupes amateurs ou semi-pro de venir et répéter de façon très régulière dans cet espace pluriel qu'on appelle aujourd'hui la SMAC, mais qui aura un nom demain.
Ma dernière question, après je vous promets, j'arrête. Enfin, les autres prendront, hein, rassurez-vous. Qu'en est-il des acteurs locaux de la vie culturelle ? Là, je pense à des structures que vous avez rencontrées, je crois, mercredi dernier, hein, mercredi là. Je pense à des structures comme les Bruissia Social Club, comme l'Atelier, comme le Solide Acteur, comme... Enfin, vous avez déjà dû faire connaissance, j'imagine, avec ces structures-là. Ce sont des acteurs de petites structures de la culture locale hein, qui œuvrent depuis, pour certains, de très très nombreuses années. Est-ce que ce projet Tangram intègre quelque chose avec ces structures où on est sur, où on est sur autre chose ?
Alors, on a eu effectivement une première rencontre avec certains des acteurs, hein, pas tous. Qui était un premier contact. L'idée, c'était de faire un peu connaissance, de leur faire visiter aussi la salle de musique actuelle, évidemment, et de voir ensemble que nous, on perçoive un peu mieux les attentes, où est-ce qu'elles se trouvent, en quoi, mais ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, en quoi ce nouveau bâtiment qui a émergé a suscité des nouvelles attentes pour eux. Ou le regard qu'il porte sur le fait que ça va pouvoir créer de nouvelles choses ou pas. Voilà. Donc on en est à ce stade-là. Aujourd'hui, un équipement, quel qu'il soit, un équipement culturel, il a forcément une mission de tisser des liens avec le territoire sur lequel il est implanté. Pour tisser ces liens-là, forcément, il va devoir rentrer en relation, peut-être coopérer sur des projets ou sur des services rendus, comme ça peut être le cas par exemple sur les studios, hein, avec les acteurs locaux. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va pas forcément de soi que tout le monde va pouvoir y trouver sa place à l'intérieur du Tangram. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que chacun comprenne les contraintes qu'on a de part et d'autre. et les besoins surtout. Lors de cette réunion, c'est clair qu'il y a, on sent bien qu'il y a des priorités qui sont, qui émergent très très vite, parce qu'il y a un vrai besoin, il y a un manque même, et que ça, faut qu'on arrive à y répondre, mais qu'on y réponde bien. Qu'on n'y réponde pas de façon complètement faut pas qu'on soit démagogique sur l'idée bah oui tout le monde va pouvoir répéter par exemple hein, tous les groupes vont pouvoir répéter tout le temps à n'importe quelle heure et n'importe où, non. Voilà, il y a des règles qu'on va devoir fixer, mais c'est pour ça que moi je voulais les rencontrer très très en amont. Alors, d'aucuns vont dire, bah dis donc, ça fait un moment quand même, depuis le temps qu'on en entend parler, hein, etc.
Oui, quand on vit sur le territoire des attentes depuis un moment, c'est vrai
c'est
qu'on
vrai.
On n'a pas la sensation que c'est très en amont, mais effectivement, sur le projet, on peut
sauf
le voir comme étant
moi,
en amont d'action.
Quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Et bien sûr, les choses existaient, les besoins, ils sont assez facilement identifiables, c'est ce qu'on pourrait me rétorquer très très vite. Mais on voit bien d'ailleurs que les demandes ne sont pas de même nature, mais c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, et c'est normal. Maintenant, comment on va y répondre? Ben, c'est à cette question-là qu'on va, en tout cas, qu'on va répondre, ça c'est sûr, de façon la plus constructive possible. Voilà. Mais je crois sincèrement qu'une structure culturelle ne peut pas se dispenser de liaison, au moins d'échange, ça c'est un minima, parfois de coopération, voire même de projets communs avec tout ou partie des partenaires culturels territoriaux.
Eh bien non, moi je propose qu'on fasse une petite pause musicale, la deuxième pause musicale de Christian Mousseau-Fernandez, notre invité, et puis nous prendrons le temps de parler un petit peu plus eh bien de vous, Christian, sur les quelques minutes qui nous restent.
Exactement. La même question que tout à l'heure. Pourquoi Omer à Vital?
Parce que, pour deux raisons. La première, parce que j'aime beaucoup le jazz. Et puis parce que ça a été une découverte qui était pour moi, qui s'est fait sur scène. Enfin, pas moi sur scène, hein, mais...
mais peut-être, on ne sait pas.
Mais non. Voilà, une expérience, là, pour le coup, de spectateur qui a été assez forte, ouais, et que je trouve... voilà, dans le jazz, il y a beaucoup de courants, etc., parfois un peu fermés. Et je trouve que Omer Avital a une proposition que je trouve qui est assez accessible pour faire aimer le jazz.
Homer Avital, un choix, de Christian Mousseau-Fernandez.
Oui, donc vous êtes toujours Scène de vie, vite scène, en direct avec notre invité Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Tangram. Alors, on a beaucoup parlé du projet, mais moi j'avais une question un peu concrète, mais non. Quand est-ce qu'on voit des concerts et qu'on boit des bières dans cette salle? Qu'est-ce qui va s'y passer? Parce qu'il y a quand même une attente.
Absolument. Très concrètement, la salle va ouvrir début novembre, après les vacances de la Toussaint. Et d'ici fin décembre, il y aura 8 concerts. Donc 4 dans la grande salle et 4 dans le club. Et c'est un rythme qui va continuer toute la saison. Hein. On aura dorénavant à peu près un peu plus d'une trentaine de concerts par an dans ces salles. Et on pourra y boire de la bière, mais pas que.
C'est bon, on est rassurés.
Non mais voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'était à peu près ça l'objet. 45 minutes d'émission, c'était notre question de bouclage du projet.
Ok, on se donne rendez-vous là-bas pour boire de la bière.
Ne vous inquiétez pas pour ça, vous nous trouverez pas loin. On voulait aussi, au-delà du projet, rencontrer l'humain qu'il y a derrière la fonction. Qui est Christian, au-delà du directeur du Tangram, au-delà du porteur du projet? Quel est son homme? Quelle est sa vie? Quelle est son œuvre? C'est à peu près ça l'idée. Alors, la presse.
Vous avez 7 minutes, Christian.
C'est à peu près ça l'idée. Non, mais c'est tout aussi important de connaître l'homme que la fonction, finalement. J'imagine que c'est à travers tout votre parcours que finalement vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et alors, on vous a découvert un petit peu à travers les deux choix musicaux. La question, tout simplement, c'est qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous?
Oh là là.
Elle est dure.
C'est un peu les existentiels, ça. Non, déjà, qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers artistique?
L'enfance, je pense. Un environnement familial déjà très, très enclin à vouloir faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à la culture le plus tôt possible. Donc avec des parents qui étaient très très engagés sur les questions notamment d'accès à la culture pour tous. Donc forcément j'ai baigné là-dedans. Donc je pense que inconsciemment ça développe une certaine sensibilité, ça c'est sûr. Après je pense que le fait d'avoir pratiqué atelier de pratique artistique aussi dans l'enfance, en théâtre, en musique, fait que à un moment donné on se pose la question, mais j'aime vraiment ce truc là quoi, et si je pouvais en faire mon métier. Mais d'ailleurs je me suis pas posé cette question là dans ces termes là, c'est pas vrai du tout. C'est plutôt j'aimerais bien travailler dans ce milieu là en faisant quoi, je n'en savais rien du tout. Donc voilà, après c'est au gré des rencontres, c'est toujours pareil, hein. C'est des rencontres et puis beaucoup d'expériences en fait. Moi, quand j'étais enfant, je suis issu du milieu rural. On avait c'est une commune où il y avait, 1200 habitants, pas plus. Donc la vie culturelle locale, elle n'était faite que de ce que nous on en faisait. Donc très tôt, j'ai fait partie de ce qu'on appelait les foyers de jeunes à l'époque, etc. Donc on s'est battu finalement. Il y a eu une question d'engagement qui m'a amené en fait à découvrir qu'est-ce que ça voulait dire d'organiser un spectacle, etc., etc. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs. Hein. Ce que j'aimais, c'était de pouvoir produire des choses qui amenaient une forme de grande satisfaction personnelle pour moi, mais aussi par rapport à un public, alors qui était évidemment acquis d'avance, parce que dans la salle, il n'y avait que les parents et les copains, mais quand même, je pense que ça vient de là, pour répondre à la question comment j'arrive aujourd'hui là où je suis.
Mais dans, dans votre parcours, il y a quand même des études qui sont dirigées vers le culturel, puisque j'ai vu qu'il y avait une licence, une maîtrise, je me souviens plus de mise en œuvre de projets culturels. Donc là, le choix est clairement fait d'aller vers ce domaine-là et de développer cette connaissance et de maîtriser les outils qui permettent de donner, voilà, d'être dans ce milieu-là et de développer un projet.
Oui, c'est vrai, mais là j'ai 20 ans déjà, donc je pense qu'on est un peu plus à même de se dire, mais de faire des choix en tout cas. Mais si je prends les deux années d'avant la licence, voilà, je fais de la communication d'entreprise et de relations publiques, mais cela étant, tous les stages se font en secteur culturel quand même.
Un indicateur.
Oui, ouais, bah, absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que... je pense que sur le fond, ce qui m'a toujours animé est très profondément ancré dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, mais qui parfois est un peu galvaudé, sur la question d'éducation populaire. C'est-à-dire que c'est parce que il y a une question fondamentale pour moi qui est de la question de l'accès à l'art et à la culture. Qui m'a toujours préoccupé pendant mes études, en fait. C'est pour ça que je rentre en licence et en maîtrise en sociologie, par exemple. Et c'est ces questions-là, en fait, qui m'animent. Je suis pas du tout à me dire « je vais devenir programmateur ». Non, c'est une vraie préoccupation de fond, je crois, qui m'anime à ce moment-là, ne sachant pas, d'ailleurs, ce que ça va donner au bout du compte. Hein, mais...
Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez abordé là que vous avez participé à des ateliers culturels. Je voudrais savoir, avez-vous une pratique artistique d'un instrument ? Est-ce que vous, je ne sais pas, vous dansez ? Est-ce que vous êtes comédien ? Est-ce que vous avez eu, en tout cas, dans votre parcours, la pratique artistique ? Parce qu'on voit bien la sensibilité qui est tournée vers le public. Mais vous, est-ce que vous avez une sensibilité artistique et une pratique, éventuellement ?
J'en ai plus. Enfin, de la sensibilité, j'en ai, mais je crois, j'espère, même si elle est très, très déformée par mon métier. Mais de pratique, oui, j'en ai eu, notamment de la pratique instrumentale pendant plus de 10 ans.
Quel instrument ? On veut savoir, là, je veux savoir. Vous pouvez pas rester mystérieux comme ça, Christian. Vous pouvez pas me dire, oui, j'ai eu une pratique d'instrument sans me dire quoi.
J'ai fait du saxophone pendant, oui, plus de 10 ans même. Voilà, donc...
En groupe, en solo, dans quel type
Voilà, c'est le cursus typique de la petite école de musique en milieu rural, voilà, avec un enseignement ultra classique et conventionnel, qui amène à avoir un apprentissage ultra technique d'un instrument et très peu sur la question du son, en fait, hein, et donc du jeu... on va dire, de ce que produit l'instrument et de la façon dont je peux influencer ce son-là. Je suis un peu sévère, mais c'était un petit peu ça quand même. Donc, harmonie municipale, donc on joue avec les autres, etc. Hein, et puis on rentre en conservatoire, où là, on se rend compte très vite que c'est encore moins ce qui m'intéresse. Et donc, on fait des tentatives, on fait des tentatives de groupe.
On fait des
tentatives de groupe plutôt en rythme and blues, voilà. Et puis surtout, finalement, l'expérience, alors ça c'est le pompon que vous saurez tout de ma vie, l'expérience finale et qui me fait m'arrêter après, à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté. Mais ça a été en fait lorsqu'il a fallu que j'aille rendre mes services sous les drapeaux, où j'ai été en fait j'ai été musicien en fait pendant un an et j'ai eu cette opportunité d'avoir un chef de musique qui était forcément militaire, évidemment, mais qui était passionné de jazz. Donc, on passait notre temps, sur les 6 heures de répétition qu'on avait par jour. Il y avait 2 heures pour toutes les marches, qu'on devait apprendre par cœur, évidemment, tous les hymnes nationaux et autres, etc. Et le reste du temps, on faisait du jazz. Donc, voilà.
Tout l'amour du jazz, ça y est.
Entre.
Merci, Christian Mousson-Fernandez, d'avoir été notre invité, de nous avoir fait partager, expliquer ce projet et puis de mieux vous connaître et vous rencontrer.
Merci à vous.
On vous sollicitera peut-être sur des programmations musicales dans d'autres émissions. Pour quand même créer
entre
du lien,
entre autres.
Et puis le temps nous presse parce que nous avons été bavards et nous avons pris le temps, ça c'est le propre de l'émission. On va aller très vite simplement dans les choses à voir. Moi je dirais pour un agenda très très vite, c'est aller écouter Cécile McLaurin pour faire la transition avec le jazz.
Hein, oui.
Le jeudi 13 octobre au Cadran à Évreux, 20h. Allez voir, elle est jeune, elle est toute jeune, mais elle a une expérience incroyable. Elle a une clarté, une technique vocale qui scotche tout le monde. On la compare à la Ella Fitzgerald.
Et Billie Holiday, ouais.
Et Billie Holiday, c'est du cristal, sa voix.
Merci,
on l'écoute, j'y sais.
Alors, on ne va pas avoir le temps de l'écouter, malheureusement.
Non, mais voilà.
Je le mettais en fond pour illustrer ton propos, Nathalie. Les auditeurs pourront aller se renseigner sur les internets, car
oui,
c'est
alors,
entièrement site, disponible.
Site internet à son nom, allez-y. Et puis surtout, prenez vos places.
On va vous laisser avec le rendez-vous le mois prochain.
Le 4 novembre.
On va vous souhaiter un bon mois de sortie.
Et ce qu'on se fait quand même,
oui.
Puro Zawa, voilà.
Complètement, on l'avait promis aux auditeurs.
Samedi, demain, samedi 8, journée consacrée à Kurosawa. Deux films inédits, Polar, Les salauds dorment en paix. Et le deuxième, je ne l'ai plus en tête, mais c'est aussi sur le polar japonais assez des années 50-60. La bande-son de Les salauds dorment en paix est absolument incroyable. Allez-y.
Le deuxième rendez-vous, c'est entre le ciel et l'enfer.
On vous laisse avec Les salauds dorment en paix et on vous retrouve le mois prochain.
Le 4 novembre.
どこ？あんたの告別式。
これは現代人の麻痺した魂を激しく揺さぶり覚まさずにはおかない奇怪なそして感動的な物語である。
こいつら子供しなきゃ今頃は幸せな妻をしてせいせい眠ってるやつなんだ。俺はそれが許せない。こいつらいくら憎んだって憎み切れるやつじゃないんだ。
空前の豪華キャストを網羅して世界の巨匠黒澤明が世に問う映画史上不朽の名作。
どけ、よしこ。そいつはお前を踏みつけに、ただ復讐の道具にしやがった。30億のリベートとおっしゃるがあった。また15億しかお出しになっとらん。
君、リベートは1割の相場だよ。120億で15億なら恩かないでしょ。
2時間半あれば手配ができるだろう。
スケールと強烈な迫力、鋭い演出で描いた比類なき現代人必見の最高傑作。悪い奴ほどよく眠る。
兄さん、何を考えてるの？一体何が起こってると思うの？
言ってみりゃ分かる。